On va prendre le temps de pouvoir partager la parole du Seigneur, de pouvoir ouvrir cette parole qu'il nous a laissée. Et avant de pouvoir lire un premier texte, j'aimerais vraiment encore vous souhaiter la bonne année, une excellente année, que vraiment le Seigneur puisse vous bénir. Je crois que plusieurs l'ont dit dans leur prière, c'est vraiment une grâce que de pouvoir être là aujourd'hui. Et nous voulons vraiment encore remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il va encore faire, parce que je crois que nous servons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est agissant. C'est vrai, il y a des œuvres qui ont été faites, comme on nous l'a rappelé au travers de la Sainte-Seine, le Seigneur Jésus est venu sur terre, il est mort et il est ressuscité, mais aujourd'hui nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Et je crois qu'il a d'excellentes choses pour nous, d'excellentes bénédictions, d'excellentes promesses, et que nous allons vivre ensemble ces promesses dans l'année 2024 par la grâce de Dieu. Et j'aimerais encore nous encourager à saisir ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole dans la Genèse. On va lire un petit passage et après on va aller dans les Actes. Mais au Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous allons lire les quatre premiers versets. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Acte au chapitre 13. Acte 13, on va lire à partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyé par le Saint-Esprit, Barnabas et Saül descendirent à Séleucus, d'où ils débarquèrent pour l'île de Chypre. On s'arrête là. Ces deux passages nous parlent de deux choses sur lesquelles j'aimerais nous arrêter ce matin. J'ai, en préparant ces moments, j'ai vraiment eu une pensée particulière pour nous. Et je m'étais dit, avant de préparer ces moments, je ne vais pas forcément tomber dans le fait de vous donner des résolutions pour l'année 2024. Mais ce n'est pas une résolution que je vais vous donner ou vous encourager à prendre, mais c'est un chemin sur lequel j'aimerais que nous puissions aller ensemble. Un chemin sur lequel, je crois, le Seigneur veut nous amener afin qu'il puisse se manifester dans nos vies, sur nos vies, dans nos familles, parce que je crois que le Seigneur Jésus a un projet merveilleux pour nous. Il a un projet merveilleux pour son Église universelle, il a un projet merveilleux pour l'Église de Toulouse-Sainte-Agne, et il a un projet merveilleux pour chacun d'entre vous personnellement. Ce matin, peut-être que vous êtes membre de l'Église, peut-être que vous êtes de passage, peut-être que vous découvrez l'Évangile et que c'est la première fois que vous rentrez dans une Église. Peut-être que pour vous, c'était cette résolution, l'année 2024, je vais la commencer en m'occupant de mon âme, en m'occupant de mon éternité, et je vais voir qui est Dieu. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, s'occuper de son âme. Mais je crois que ce matin, le Seigneur Jésus veut nous encourager à pouvoir cheminer avec lui, à pouvoir avancer avec lui. Et ce premier texte que nous avons vu dans la Genèse, et cette parole que Dieu va adresser à Abraham, 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 après Dieu va lui faire changer de nom par rapport à la promesse qu'il va accomplir dans sa vie. Mais Abraham va être là et va entendre cette parole quand même ô combien difficile. Il va lui dire ceci, il va lui dire, va, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte les tiens. Et va là où je te montrerai. Il lui a même pas dit exactement où est-ce qu'il devait aller. Il lui a simplement dit, écoute, Abraham, je vais t'amener à un endroit où tu seras béni. Je vais t'amener à un endroit où les choses seront excellentes. Tu vas devenir, tu vas rentrer en possession, ta postérité va prendre possession de toutes ces terres-là. Mais pour l'instant, je te demande seulement de partir et je te montrerai le chemin. Et bien des fois, dans nos vies, nous avons cette difficulté parce que le Seigneur Jésus nous parle et nous dit, écoute mon enfant, je veux t'amener à un endroit. Et je veux que tu me fasses confiance parce que moi, je vais t'amener à un endroit qui sera béni, un endroit qui sera bon, un endroit qui sera rempli de lait et de miel, un endroit où il y aura vraiment la bénédiction. Et nous avons tendance à nous dire, ok Seigneur, je veux aller avec toi, je sais que ce que tu attends pour moi, je sais que tu as des bénédictions extraordinaires à mon égard, mais où est-ce que c'est Seigneur? Il est où cet endroit? C'est quoi le chemin? Montre-moi exactement par où je dois passer, avec tous les détails. Et le Seigneur va simplement te dire, écoute mon enfant, crois en moi, et je t'amènerai dans ce pays. Et c'est là où la foi va être mise à rude épreuve. Parce que le Seigneur Jésus veut nous conduire, mais quand il nous amène d'un point A à un point B, le Seigneur ne nous donne pas tous les détails des étapes. Et nous pouvons repenser, et je repense à ce texte quand l'Éternel va sortir le peuple d'Égypte et qui va le faire traverser la mer Rouge pour justement l'amener dans ce pays promis. Il y a une petite phrase un peu anodine qui dit qu'il aurait pu le faire passer par un chemin, mais il est dit que le Seigneur ne voulait pas voir, il ne voulait pas que le peuple voie ce qui se passait à cet endroit-là pour pas qu'il soit découragé. Et donc il va lui faire faire un autre chemin. Et cela nous montre combien le Seigneur est bon avec nous. Parce que si le Seigneur Jésus te donnait tous les détails exacts de ce par quoi tu allais passer pour être le serviteur et la servante que le Seigneur veut que tu sois, je ne suis pas sûr que tu accepterais le chemin. Parce que le chemin avec le Seigneur Jésus est un chemin de bénédiction, est un chemin de grâce, est un chemin d'excellence. C'est une vérité absolue. La parole nous l'enseigne. Mais le Seigneur Jésus nous a aussi dit que on serait moqué, on serait haï. Tout comme lui a été rejeté, on serait rejeté. Et si tu savais que peut-être que le Seigneur Jésus allait t'accorder une bénédiction, mais avant de t'accorder cette bénédiction, tu vas être brisé, tu vas être mis plus bas que terre, tu vas être humilié, ta chair va être brisée, tu vas passer par la maladie ou tu vas passer par telle ou telle épreuve. Si le Seigneur te révèle tous les détails avant, je ne suis pas sûr que tu accepterais de suivre cela, malgré que la bénédiction derrière soit grande et merveilleuse. Et le Seigneur Jésus va parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous aime, nous épargner certains détails. Cela ne veut pas dire que le chemin sera plus facile. Simplement, le Seigneur Jésus va nous encourager. Et quand la difficulté sera là, quand la tempête sera là, quand les vents souffleront, le Seigneur Jésus sera avec toi. Le Seigneur Jésus sera avec toi dans le bateau. Le Seigneur Jésus sera avec toi. Il te gardera, il te protégera. Et le Seigneur Jésus veut t'amener dans cette vie de foi. Le Seigneur Jésus veut t'amener sur ce chemin pour que tu puisses découvrir cet endroit merveilleux dans lequel il veut t'amener. Après, nous avons lu ce passage de Paul et Barnabas, de Saul et de Barnabas. Et là, nous voyons qu'une autre fois, le Seigneur Jésus va se choisir deux personnes pour pouvoir accomplir son œuvre. Et je crois que le Seigneur Jésus va dire par le Saint-Esprit à ce moment-là, il va dire, mettez-moi à part ces deux personnes, parce que j'ai une œuvre pour eux. J'ai une œuvre précise par laquelle je veux qu'ils aillent annoncer mon nom, qu'ils aillent auprès des païens pour dire combien le Seigneur Jésus, l'œuvre qui a été accomplie à la croix et que le salut aujourd'hui est sur cette terre et qu'il est possible d'être sauvé. Et le Saint-Esprit va mettre à part ces deux personnes afin qu'ils soient envoyés. Et je crois que cela peut aussi nous parler. Cela soit aussi nous parler. Il y a une nouvelle année qui est déposée devant nous. Et nous avons un choix. Est-ce que nous voulons que l'année 2024 soit la même que l'année 2023? Ou voulons-nous que l'année 2024 soit différente de l'année 2023? Je ne sais pas comment s'est passée votre année 2023. Peut-être que ça a été une année d'excellence, une année de réussite, une année de bénédiction comme jamais vous en avez eu dans votre vie. Et gloire à Dieu. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que vous ne pensez pas que le Seigneur Jésus a peut-être mieux pour vous? Est-ce que vous ne croyez pas que le Seigneur Jésus va encore faire plus avec vous? Est-ce que vous ne croyez pas que le Seigneur Jésus veut vous amener à progresser? Est-ce que le Seigneur Jésus, ce matin, peut te dire « Je veux te mettre à part, afin que tu découvres une grâce particulière, afin que tu puisses avancer avec moi. La nouvelle année qui arrive devant toi, je veux que tu te mettes à part, afin de grandir avec moi, afin que tu puisses accomplir les œuvres que j'ai pour toi. » Je crois que le Seigneur Jésus veut nous bénir. Je crois que le Seigneur Jésus veut nous faire découvrir de nouvelles choses. Hier, à la jeunesse, le pasteur nous a partagé ce texte de Osée au chapitre 2. Il nous a dit, dans le chapitre 2 d'Osée, au verset 16, je vais vous le lire, il nous a dit un texte vraiment, vraiment excellent. Il nous a dit, c'est le Dieu qui parle, « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. » Je crois qu'encore une fois, le Seigneur désire vraiment nous parler. Le Seigneur Jésus désire que cette nouvelle année soit une année pour nous, une année de bénédiction, une année de grâce, une année où nous avons ce privilège de connaître un peu mieux le Seigneur. Parce qu'une année de grâce, une année de bénédiction, c'est une année qui nous amène plus loin avec le Seigneur Jésus. Parce qu'on pourrait recevoir tous les biens si demain, par une erreur de la banque, on vous livrait 1 milliard sur votre compte. Ah, ça serait top. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus excellente qui peut vous arriver. Alors que si demain, le Seigneur Jésus, dans un moment d'intimité, se révèle à toi, s'il te donne une parole puissante, si tu entends sa voix qui résonne dans ton cœur, n'est-ce pas une chose excellente? N'est-ce pas une chose plus précieuse que des centaines et des centaines de millions? N'est-ce pas quelque chose de si précieux que de savoir que le Seigneur Jésus nous aime? De savoir que le Seigneur Jésus prend soin de nous? Je crois vraiment que le Seigneur veut nous faire avancer. Que le Seigneur Jésus veut nous faire progresser. Vous connaissez ce texte? Je suis sûr que vous l'avez déjà lu, je suis sûr que vous l'avez déjà peut-être noté sur une carte. Peut-être que vous l'avez même marqué quelque part. Psaume 37. Psaume 37, on pourrait lire à partir du verset 4, juste les deux versets, 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. N'est-ce pas une promesse merveilleuse? N'est-ce pas une promesse merveilleuse? Mes frères, mes sœurs, mes amis, n'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Recommande ton sort. Cette expression est un peu bizarre, des fois on peut mal la comprendre. Recommande ton sort. Si on prend cette expression et qu'on regarde un peu littéralement, c'est comme si c'est rouler ensemble son chemin. Rouler ensemble son chemin, c'est cette image de partager le chemin avec Dieu. Recommande ton sort. Ok Seigneur, je te fais confiance, mon chemin n'est pas mon chemin, mais mon chemin est notre chemin. Mon chemin est le chemin sur lequel tu veux que je marche. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. La confiance, c'est le synonyme de la foi. La foi, c'est la confiance, c'est croire en Dieu. Fais-tu confiance à Dieu pour ta vie? Fais-tu confiance à Dieu pour ton chemin? Fais-tu confiance à Dieu pour ton avenir? Peut-être qu'aujourd'hui, ton avenir est sombre. Peut-être que quand tu regardes 2024, tu as des angoisses, tu as des terreurs, tu as des choses terribles qui se passent dans ta tête parce que tu te dis, mais 2023 était tellement terrible, mais que sera 2024? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager à déposer ta vie, à déposer ton chemin, à déposer ton avenir, à déposer tout ce que tu es devant l'Éternel, afin qu'il soit vraiment ta direction, afin qu'il soit ce vent dans tes voiles, afin qu'il soit vraiment celui qui dirige tes pas, celui qui te conduit. Tout au long de la parole, le Seigneur nous encourage. Le Seigneur nous encourage à vivre selon ce que le Seigneur nous donne dans sa parole. Et pas selon ce qu'on peut voir dans le monde ou selon ce qu'on peut penser dans notre tête. Dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 15, il est dit... Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours c'est mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce n'est pas moi qui vous traite de fous ou de stupides, hein, mais la parole de Dieu nous demande de considérer les choses. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On pourrait lire... peut-être juste le passage un peu avant dans Éphésiens 4, au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si de moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous vous êtes enseigné conformément à la vérité en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Il y a soit cette image qui est donnée de l'ancienne nature et cette nouvelle nature. Ce qui fait la différence entre l'ancienne nature et la nouvelle nature, c'est quand nous donnons notre vie à Christ. Quand nous donnons notre vie à Christ, la parole de Dieu nous dit que nous devons une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et en Dieu, nous pouvons avoir un point de renouveau. Peut-être qu'aujourd'hui, ta vie n'est pas en Christ. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne maîtrise pas ta vie. Mais ce matin, encore, le Seigneur Jésus te laisse cette possibilité de pouvoir vraiment recommencer tout à zéro, de repartir, de changer. Et tout ce qui était mal en toi, tout ce péché qui te tenait lié, toutes ces maladies, toutes ces choses, Dieu peut tout restaurer, Dieu peut tout rétablir. Dieu peut te donner une nouvelle création, une nouvelle créature, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Afin que tu puisses vivre ces choses extraordinaires que le Seigneur Jésus nous promet dans sa parole. Une vie menée, une vie guidée par l'Esprit. Et ce matin, peut-être que tu as déjà fait cet acte de foi, peut-être que tu marches déjà avec le Seigneur Jésus, peut-être que ta vie, ça fait même des années et des années que tu marches avec le Seigneur Jésus. Mais peut-être que tu t'es laissé contaminer par le monde, peut-être que tu t'es laissé endormir par le monde. Peut-être que ton ancienne nature est revenue à la vie. Et le Seigneur Jésus, ce matin, t'encourage à recrucifier cette ancienne nature, à tout déposer à la croix et à revenir à lui. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On va lire un autre texte. Un texte un peu particulier. Texte dans Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète. Et il a eu une vision extraordinaire. Ce matin, on va pas rentrer dans les détails de cette vision, on va pas essayer de comprendre que signifient les choses. Mais j'aimerais qu'on puisse lire un passage et qu'on puisse faire un parallèle avec notre vie aujourd'hui. On va lire dans Ézéchiel 1. Et on va lire à partir du verset 7. Il est parlé d'être vivant, une description que Ézéchiel va faire. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds pareils aux sabots d'un taureau, ils étaient étincelants comme du bronze poli. Ils avaient des mains d'hommes sur leurs ailes et sur leurs quatre côtés. Sur les quatre côtés, il y avait leur visage et leurs ailes, ceci pour chacun des quatre êtres vivants. Leurs ailes se touchaient l'une à l'autre, ils se déplaçaient sans dévier. Chacun allait droit devant lui. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les quatre avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Voilà pour leur visage, leurs ailes étaient déployées vers les hauts. Deux de leurs ailes touchaient celles des autres et deux couvraient leur corps. Chacun allait droit devant lui et ils allaient là où l'esprit allait. Ils se déplaçaient sans dévier. Ces êtres vivants ressemblaient par leurs aspects à des braises incandescentes. C'était pareil à l'aspect de torches enflammées, un feu circulait entre les êtres vivants. Ils jetaient de la lumière, il en sortait des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants et j'ai vu que sur la terre se trouvait une roue à côté de chacun des êtres vivants, aux quatre visages. Dans leurs aspects et leur structure, les roues étaient semblables à un éclat pareil à celui de la chrysolite. Et toutes les quatre étaient pareilles, leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les quatre directions prises par les êtres vivants. Elles se déplaçaient sans dévier. La hauteur de leurs jantes était effrayante et les jantes des quatre roues étaient couvertes d'yeux tout autour. Les roues suivaient les êtres vivants dans leur déplacement. Quand les êtres vivants s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit allait et les roues s'élevaient simultanément avec eux car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils se déplaçaient, elles se déplaçaient. Et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. La lecture est un peu difficile, on ne va pas rentrer dans les détails comme je vous l'ai dit. Mais ce qui est intéressant de faire, c'est qu'on pourrait faire un parallèle entre cette vision et notre vie actuelle. On pourrait faire ce parallèle que les quatre êtres vivants et Jésus-Christ et que nous sommes les roues. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le verset qui m'intéresse vraiment, c'est ce verset 21. Quand il est dit « quand ils se déplaçaient, elles se déplaçaient, et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Car l'esprit de Jésus-Christ était dans les roues. Car l'esprit de Jésus-Christ était en nous. » Et on voit combien ces êtres vivants, que ces roues avaient une direction précise. Il nous est dit, ils allaient droit devant eux sans dévier. Et l'esprit était en eux, et c'est l'esprit qui dirigeait. Et aujourd'hui, je crois que si tu veux avancer avec le Seigneur Jésus, si tu veux que le Seigneur Jésus soit vraiment toute ta direction, si tu veux que le Seigneur Jésus soit à la manœuvre dans ta vie, il faut que tu te laisses guider par l'esprit. Tout comme l'esprit des êtres vivants était dans les roues, nous aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit qui peut être en nous. Et le Saint-Esprit est avec le Père et il est descendu afin de vivre en nous. Et le Saint-Esprit nous conduit et nous dirige. Le Saint-Esprit nous dirige afin que nous puissions aller droit devant nous, afin que nous puissions pas dévier ni à gauche ni à droite, et afin que nous puissions rester concentrés dans la volonté que le Seigneur Jésus veut pour nos vies. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous laisser ce dernier passage qui nous montre vraiment combien le Saint-Esprit veut diriger nos vies, combien le Saint-Esprit veut encore nous amener plus loin avec lui, combien le Saint-Esprit veut nous conduire, combien le Saint-Esprit désire te mettre à part, te choyer, te désirer, afin que tu puisses développer une intimité et afin qu'il puisse te révéler certaines choses, afin que ta vie soit une vie de bénédiction. Afin que ta vie soit vraiment une vie remplie de lui et qu'il puisse t'amener là où il veut t'amener. Parce que vous savez, il y a des fois une conception que nous avons, c'est que seulement certaines personnes, Dieu va se révéler à elles. Seulement certaines personnes, que ce soit les pasteurs ou peut-être les responsables ou les anciens ou vraiment ceux qui sont peut-être élevés en position, ils ont une part particulière et Dieu va leur parler, Dieu va les diriger, Dieu va les utiliser à eux. Mais Dieu veut t'utiliser à toi. Dieu veut t'utiliser à toi. On pourrait prendre l'exemple d'Étienne. Étienne, c'était un homme tout simple. Il nous a simplement dit qu'il était rempli de foi. Il était rempli de foi. Mais ce n'était pas un pasteur. Ce n'était pas un évangéliste. Ce n'était pas un ministère particulier. C'était simplement un homme qui avait cru en son Seigneur Jésus-Christ et qui avait décidé, c'est vrai, de le servir. Et ce matin, j'aimerais te laisser cette interrogation afin que tu puisses y répondre. Ce n'est pas une condamnation que je jette sur ta vie, mais c'est un encouragement. Est-ce que tu veux que le Seigneur Jésus se serve de toi? Le Seigneur Jésus, lui, veut se servir de toi. Le Seigneur Jésus, lui, il a donné sa vie afin que tu sois sauvé et afin que tu puisses rentrer dans son royaume, afin que tu puisses devenir un servant, une servante et un servant, un serviteur à la gloire de Dieu. Et toi, est-ce que tu veux être utilisé par le Seigneur Jésus? Est-ce que tu veux aller plus loin avec lui? Est-ce que tu veux vraiment aller plus loin? La fin de l'épître de Pierre, de la deuxième épître de Pierre, il est dit « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Grandissez dans la connaissance de Jésus. Grandissez. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus veut se servir de vous. Le Seigneur Jésus veut que vous puissiez avancer. Le Seigneur Jésus veut se révéler afin que vous puissiez découvrir pleinement qui il est, afin que vous puissiez expérimenter des choses vraiment particulières. Le Seigneur vous aime personnellement. Le Seigneur aime l'Église et a un projet général pour son Église avec le grand E. Le Seigneur Jésus a un projet bien précis pour l'Église de Toulouse-Sainte-Agne. Et le Seigneur Jésus a un sujet bien précis, a quelque chose de bien précis pour toi individuellement. Pour toi individuellement. Et j'aimerais nous rappeler cette parole que Jésus a dit à Pierre après la résurrection. Quand Pierre a vécu ce moment de restauration et que Jean est arrivé et que Jésus lui a dit « Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver à lui ?» Le Seigneur Jésus, mais peu importe, toi personnellement, je te veux toi, je veux cette intimité avec toi, parce que toi personnellement, j'ai des choses à te dire. Toi, personnellement, j'ai des choses à te montrer. Toi, personnellement, j'ai besoin de toi. Dieu est tout-puissant. Dieu, en un claquement de doigts, peut tout arrêter sur cette terre. Dieu est au-dessus de tout. Et pourtant, dans sa souveraineté, il a choisi de manifester son œuvre au travers de chacun d'entre nous. Pourtant, il a choisi d'accomplir son œuvre toujours avec un homme, avec une femme. Toujours. Dans sa parole de Dieu, Dieu aurait pu faire des choses extraordinaires. Mais quand il a fallu ouvrir la mer Rouge, il fallait un Moïse. Pourtant, c'est la puissance de Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Moïse, lui, il n'a rien fait, il a juste obéi. Mais il a fallu ce Moïse. Et pourtant, il y a tant de miracles dans la parole de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui ont simplement cru que Dieu pouvait agir et qui ont simplement obéi. Alors vraiment, mes frères et sœurs, j'aimerais priez encore, remerciez le Seigneur Jésus. Et j'aimerais vous bénir dans le nom de Jésus. J'aimerais vraiment, Saint-Dieu, encore bénir notre Église. Nous bénir chacun individuellement. Cette année est là devant nous. Et nous avons cette grâce et ce privilège de pouvoir marcher durant toute cette année encore avec le Seigneur Jésus à nos côtés. Nous avons la grâce de pouvoir marcher sur le chemin que le Seigneur Jésus a placé devant nous. Alors ok, ce chemin peut être vallonneux, ce chemin il peut y avoir des montagnes, il peut y avoir des creux, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des tempêtes, le chemin peut être tout plat et rempli de bénédictions. Mais le Seigneur Jésus sera toujours, toujours, toujours avec nous. Il l'a promis, il sera toujours avec nous. Et il nous tient dans sa main, et il nous garde et il nous protège. Je remercie le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il va le faire. Seigneur, nous te bénissons, nous glorifions ton nom et nous t'élevons, Seigneur Jésus, parce que tu es ce Dieu qui est fidèle, parce que tu es ce Dieu qui est merveilleux, parce que tu es ce Dieu qui est au-dessus de tout, parce que tu es ce Dieu qui dirige tout, parce que tu es ce Dieu qui maîtrise tout. Et nous te bénissons pour ta souveraineté, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons, c'est vrai, Père éternel, pour cet amour manifesté. Et comme ça a été rappelé quand nous avons pris cette sainte scène, tu nous as aimés alors que nous ne méritions pas d'être aimés. Mais tu t'es sacrifié alors que nous étions pécheurs, Jésus. Mais quelle grâce et quel amour, Saint-Dieu, tu nous as donné. Vraiment, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, nous avons ce privilège que de pouvoir dire, de pouvoir affirmer que nous sommes enfants du Dieu Tout-Puissant. Et nous savons que notre Père a des choses excellentes pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, Saint-Dieu, je veux bénir ton nom et je veux bénir cette assemblée qui est devant moi, Père éternel, afin que ta grâce, afin que ta bonté, afin que ton amour soit sur chacun d'eux. Père éternel, que tu puisses vraiment encore passer dans les rangs, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses vraiment encore bénir, que tu puisses déposer quelque chose de particulier et que vraiment, Saint-Dieu, encore cette année soit une année pour chacun d'eux, une année de bénédiction, parce qu'ils se seront rapprochés de toi, parce qu'ils seront découverts qui tu es. Vraiment, Seigneur Jésus, je te remercie pour tout. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen. Amen. Amen.